BFM Business, l'info éco.
Il est 8h30 sur BFM Business et sur MC Life, le journal, c'est avec Léo Dumas.
Et à la une, Paris et Berlin qui confirment l'impossibilité de poursuivre le projet SCAF. Il n'y avait plus aucune perspective d'entente entre les industriels Dassault et Airbus, que ce soit sur les sujets techniques ou de gouvernance. Le programme est donc terminé sous cette forme. Mais Michel Cabirol, rédacteur en chef du pôle défense à la Tribune, nous dit ce matin qu'il y a encore un petit peu d'espoir.
Ce que je comprends, c'est que l'Élysée continue de s'accrocher à une volonté de coopération franco-allemande, ce qui est pas plus mal, mais il faudra vraiment définir les termes de cette coopération. Donc, ce que je comprends, effectivement, il y a un conseil franco-allemand de défense et de sécurité qui va se tenir à la mi-juillet et qui va définir une nouvelle feuille de route pour ce programme, en tout cas pas sous cette forme-là. Et je pense que il y aura des décisions sur la poursuite d'un programme de système de système.
Donc, voilà, je dirais prudence. Michel Cabirol, le rédacteur en chef du pôle défense, à la Tribune ce matin sur BFM Business. Dans le reste de l'actu, grosse poussée pour les exportations chinoises, plus 19,4% sur un an au mois de mai, et même plus 35% vers les États-Unis, soit une hausse de 10 milliards de dollars de marchandises expédiées vers le pays. Dans l'autre sens, les importations globales vers la Chine ont aussi bondi, plus 27% sur la même période. En Allemagne également, les exportations sont bien orientées. On est là-bas à plus 0,9% sur un mois en avril, selon les données officielles, quand les analystes s'attendaient à un repli de 0,8%. Une acquisition à 10,5 milliards d'euros ce matin, signée GSK, dans la pharma, le Britannique qui annonce le rachat de la biotech américaine Nuvalent. Elle est au stade clinique dans l'oncologie avec 3 thérapies prometteuses contre le cancer du poumon. Ça avance aussi pour AstraZeneca dans les traitements anti-obésité. Son comprimé offre des résultats encourageants selon une étude de phase intermédiaire publiée hier. De quoi donc pousser le laboratoire à confirmer la poursuite de son développement. Et puis un gros rappel ce matin chez Stellantis. 1 300 000 voitures, toutes des Jeeps, à cause d'un risque d'incendie. Le constructeur demande de les garer loin de tout bâtiment ou de tout autre véhicule tant que les réparations ne sont pas effectuées. Sont concernés les Jeeps Gladiator, notamment fabriqués entre 2021 et 2025.
Merci beaucoup Léo Dumas. L'actualité de la presse internationale avec Annalisa Capellini. On revient sur l'escalade entre l'Iran et Israël.
Oui, c'est une escalade qui révèle des nouvelles ambitions régionales pour le Wall Street Journal. Des ambitions régionales de la part de Téhéran qui sont agressives. En fait, cette escalade montre surtout qu'il y a une propension au risque de la part du régime de Téhéran qui n'existait pas avant la guerre. Le régime iranien veut encore projeter sa puissance dans toute la région et surtout montrer aux Américains qu'il y a encore une capacité de frappe très importante. En même temps, Donald Trump, lui, est occupé sur un autre front. Il faut arriver à se mettre d'accord avec Benjamin Netanyahou qui a mené ses dernières frappes sur l'Iran en complet désaccord avec le président américain. Et le Financial Times se demande donc qui tire les ficelles entre Netanyahou et Trump, puisque chacun essaye d'arriver à ses objectifs. Attention quand même, le Financial Times le rappelle, malgré ces frictions, rien n'indique que Donald Trump soit prêt à utiliser des moyens de pression plus importants pour forcer les Israéliens à l'écouter.
Alors, Annalisa, je disais que ce matin, c'était les vieux dossiers qui reviennent. Mais alors, Bloomberg consacre sa une au Brexit.
Oui, là, c'est un vieux dossier, parce que les Britanniques se posent encore des questions sur le Brexit 10 ans après. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer veut se rapprocher de l'Europe, c'est ce qu'on lit dans les pages de Bloomberg, mais il y a plusieurs manières. Est-ce qu'on le fait politiquement? Est-ce qu'on se rapproche de l'union douanière? Est-ce qu'on le fait économiquement? Et donc Bloomberg analyse les conséquences d'un rolling back, donc d'un rétro-pédalage sur le Brexit, sur l'économie britannique. D'ailleurs, le Royaume-Uni se divise aussi en ce moment sur la question des drapeaux ukrainiens, parce que des conseillers municipaux de Reform UK, donc le parti eurosceptique de Nigel Farage, ont fait le choix de retirer les drapeaux ukrainiens des mairies. C'est un symbole, évidemment. Et donc Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'exprime ce matin avec une interview dans les pages du Guardian. Il dit que c'est une petite erreur, je le cite, qui peut briser une grande amitié. Ce n'est pas vraiment le moment, selon Zelensky, qui rappelle qu'aider l'Ukraine est aussi une opportunité pour l'Europe de se libérer définitivement de l'influence de Moscou.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini, la Bourse. Étienne Brac, ouverture dans 25 minutes, qu'est-ce qu'on attend?
Un CAC 40 qui recule de 0,2% en préouverture après avoir cédé hier soir à la clôture de l'ordre de 0,2% également. On a des indices européens qui sont un petit peu au point mort ces dernières heures, qui échappent un petit peu à toute la volatilité extrême autour des valeurs liées aux semi-conducteurs. Ce matin, le KOSPI, donc l'indice de la bourse de Séoul, a rebondi de 8% parce que vous avez SKNX qui a gagné plus de 10%. Ça montre bien un petit peu quand même la forte volatilité qu'il y a autour de ces valeurs qui ne sont pas des petites valeurs. Ça pèse quand même 1000 milliards de dollars de valorisation boursière SKNX. Hier à Wall Street, vous avez l'indice de semi-conducteurs qui a repris plus de 5% après son moins 10 d'hier. Jeon Sang-young hier qui était face à des journalistes à Séoul qui a dit mais ça c'est le moment d'acheter, il faut y aller, les perspectives sont toujours là, ignorer la volatilité, on est toujours face à un boulevard dans ce secteur des semi-conducteurs avec aujourd'hui quand même Nvidia qui tient très bien en bourse, qui est certes volatile mais moins volatile que l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Du côté des marchés pétroliers, on a un baril de Brent qui cède 1,5%, 93 $, 89 $ pour le WTI, avec Donald Trump qui a encore dit cette nuit pour la énième fois qu'un accord était proche avec l'Iran, qu'on était dans les derniers efforts. Bon, le marché est de plus en plus sceptique face à ça, mais en tout cas, il ne panique pas et il continue de croire que ce conflit va prendre fin.
Merci Étienne. Dans un instant, le Club de la Bourse avec Christian Parizeau pour Aurel BGC et Pierre Blanchet chez Amundi. On va parler bien sûr de tout ça, mais aussi de la hausse des taux à venir du côté de la BCE et des grosses IPO dans tous les sens. A tout de suite.
Good Morning Market, le Club de la Bourse.
8h38 et le Club de la Bourse, aujourd'hui c'est avec Pierre Blanchet, bonjour. Bonjour. Responsable des solutions d'investissement retail chez Amundi, à côté de vous Christian Parizeau, bonjour, conseiller bonjour. Économique pour Aurel BGC. Je commence avec les chiffres de la nuit quand même, ces chiffres chinois, Christian, on voit quand même des exportations et des importations chinoises très élevées de mai à mai. Comment il faut les regarder? C'est parce qu'il y avait un trou d'air l'année dernière, donc il y a un effet de bord, comment vous regardez ça?
Oui, alors c'est toujours compliqué à interpréter parce qu'il y a beaucoup d'effets de base, donc forcément il y a une base de référence qui était particulièrement basse. Et puis surtout, quand on regarde dans le détail, pourquoi on a finalement ce commerce chinois qui est très dynamique, c'est essentiellement pour des constitutions de stocks de précaution. C'est ce qui nous revient. C'est les entreprises importent très rapidement, passent leurs commandes en Chine de peur de blocage du commerce mondial avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, c'est pas forcément très, très, très rassurant pour l'avenir. Et puis surtout, si vous prenez depuis le début de l'année en cumulé, on est quand même sur une baisse de l'excédent chinois. Donc, c'est toujours une double lecture. C'est-à-dire qu'en variation sur un an, oui, c'est bien, mais ça montre quand même qu'il y a un ralentissement. Donc, oui, il y a des bons signes parce qu'il y a quand même des signaux sur la demande intérieure où la Chine importe, mais on est quand même aujourd'hui sur beaucoup moins de commerce avec les États-Unis si on prend en cumulé.
Ouais.
Pas au moins le mois.
Et dans quelle mesure, à peu près, c'est la
relation? On est à moins 5,5 en cumulé depuis le début de l'année sur les importations en provenance des États-Unis. Par contre, la Chine exporte beaucoup plus sur les États-Unis, mais donc on voit qu'il y a quand même un déséquilibre du commerce entre les États-Unis et la Chine qui se poursuit. Donc ça n'a rien réglé, les problèmes de droits de douane. Et on a surtout beaucoup de volatilité à court terme liée à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc il faut interpréter ces chiffres avec beaucoup de prudence quand même globalement.
Et est-ce qu'on a, Pierre Blanchet, un report du côté européen avec la zone européenne qui se retrouve à avoir beaucoup de produits chinois et qui ne vont plus ailleurs arriver sur nos terres?
Oui, ça c'était le risque bien identifié déjà l'année dernière au début de la guerre commerciale. C'est ce qui se passe, et d'où la réaction des Européens qui tentent de mettre en gros des barrières à l'entrée du marché commun et aussi de recréer de la compétitivité prix. Mais bon, c'est très difficile à réaliser. Donc, à ce stade, effectivement, on est toujours dans une phase où les Européens sont finalement net acheteurs de produits chinois qui sont bon marché et qui seraient censément des contributeurs négatifs à l'inflation. Voilà, ça c'était avant le choc énergétique, mais ouais. Voilà, ça reste quand même le flux central.
Sur ce choc énergétique, sur la question du pétrole, on est remonté là, Étienne, on est à 97 sur
93.
Le Brent. On est redescendu à 93, pardon, j'ai raté 2 heures de cotation. Donc on est redescendu un peu. Ce montant, il est selon vous pas assez élevé encore?
Alors, c'est pas exactement ce qu'on dit. Ça, c'est le prix spot. En fait, vous savez, le marché du pétrole, c'est quand même essentiellement un marché de forward. Ouais. Donc là, on est quand même avec un marché de forward qui a fortement augmenté par rapport à il y a quelques semaines. Donc le marché maintenant considère que le prix d'équilibre de long terme n'est plus dans les 60, mais plutôt beaucoup plus haut. Il y a un sujet qui est en train d'émerger, c'est celui des réserves stratégiques. Un sujet qui n'est pas très facile à appréhender puisque par nature, qui dit stratégique, dit un peu secret, on va dire, dans certaines mesures, en tout cas sur la réaction des acteurs. Donc, je dirais plutôt que le marché du pétrole, à ce stade, fait toujours l'hypothèse d'une rouverture du détroit. Ouais. Comme Étienne le mentionnait tout à l'heure, bon, clairement, ça n'a pas l'air d'être demain matin. Donc, on doit quand même se projeter vers une phase où on aura durablement moins d'offres de pétrole. Et donc, on va plus utiliser les réserves, que ce soit en Chine, en Europe, aux États-Unis. Voilà, on est quand même à ce moment de jonction où il va falloir finalement se projeter sur un monde... Sur
avec des pénuries ou pas
Pénuries, je pense qu'on n'en est pas du tout là. Ouais. On en est surtout à l'ajustement de l'offre disponible. C'est pour ça que les réserves sont importantes. Elles sont en Europe, hein, comme vous savez, probablement à 90 jours. Donc, on a normalement suffisamment de réserves pour faire fonctionner l'économie pendant 3 mois.
Là, on est déjà à 100 jours de guerre. Hein.
Voilà, mais évidemment, il y a quand même du flux. Hein. C'est pas 100% du brut qui passe par le détroit. Mais c'est important d'avoir en tête qu'il y a quand même voilà, un petit juge de paix quelque part qui est les réserves qui sont considérées comme nécessaires. Et donc, les pays et les grandes zones exportatrices, dont les États-Unis, vont devoir à un moment peut-être s'ajuster. Alors, marginalement, mais si elles ont décidé de réduire un petit peu leurs exportations d'hydrocarbures pour reconstituer leur stock, ça peut avoir un impact sur le prix.
Mais la demande, Christian, a un peu baissé quand même. On le voit en France, en Europe, c'est peut-être déjà une bonne nouvelle.
Oui, mais je vais être méchant, pas suffisamment.
Ah.
Parce que normalement...
C'est
si
peut-être
on voulait,
pas assez cher.
Si on voulait, bah, c'est un peu tout le problème. Si on voulait vraiment rééquilibrer le marché du pétrole, c'est quand même 10% de demande en moins qu'on devrait avoir au niveau mondial. Hein, donc c'est quand même assez violent. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une demande un peu moins forte. Alors, c'est pas exceptionnel au niveau des pays développés, notamment on voit qu'aux États-Unis ça reste quand même assez mineur. Par contre, c'est beaucoup plus visible dans les pays émergents. Et on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont pas le choix, de toute façon,
oui, c'est ça,
il y a une
croissance
de pénurie. Et puis juste pour revenir sur les stocks, il y avait aussi un élément qui nous a fait tampon pendant un bon petit moment, c'est ce qu'on appelait les stocks flottants, vous savez, ces bateaux russes qui trouvaient pas de preneur, qui tournaient en rond
bateaux
en
fantômes,
mer.
Ouais.
Bon bah on a permis l'achat de ce pétrole et donc ça a servi de tampon, mais ça ce tampon, il est aussi en train de disparaître. Donc on a de plus en plus aujourd'hui d'inquiétude qu'on va peut-être avoir les vrais effets de cette crise durant cet été. Parce que cet été, on a une demande qui est saisonnière, qui en demande toujours dans les mois d'été hein, et qui va progresser. À un moment où on n'a toujours pas réglé le problème d'offre. Parce qu'on a eu les dernières statistiques du FMI qui nous montrent l'arrêt de production au Moyen-Orient. C'est vraiment assez important et ça ne va pas être comblé d'ici au moins la fin d'année. C'est-à-dire qu'on est sur une offre qui va être contrainte d'ici la fin d'année. Donc, on peut espérer, en effet, que les stocks permettent finalement de compenser ça le temps qu'on remette tout en route et que l'année prochaine on rééquilibre le marché. Mais vous voyez qu'on est maintenant sur l'idée que faut jusqu'à la fin d'année, on tienne sur les stocks. Et pour l'instant, le détroit d'Hormuz n'est pas débloqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase d'amélioration. Mmh. Parce que ce que nous dit aujourd'hui l'AIE, c'est que pour revenir à la normale, c'est entre 3 et à 6 mois pour revenir à la normale de la production. Donc ça veut dire qu'on va déclencher le chrono. Si on débloque le détroit d'Hormuz, un mois de déminage, reprise de la production, remise en route tout ça, et donc ça veut dire qu'on déborde sur 2027. Donc il faut que nos stocks tiennent au moins jusqu'à 2027. Sinon, faut détruire la demande. Et donc pour détruire la demande et pour compenser tout ça, c'est encore des hausses de cours du pétrole. Donc aujourd'hui, on a quand même des cours du pétrole entre guillemets qui sont pas chers,
ouais.
Qui sont pas chers au regard du risque, au regard de l'incertitude, parce que les marchés espèrent que demain ça se débloque. Et c'est difficile de prendre une pause parce qu'on sait que demain Monsieur Trump peut nous dire ça y est, tout est réglé. Donc personne ne joue vraiment mais plus ça passe et plus on se rapproche de cette demande saisonnière de l'été, plus on a une pression très haussière sur les cours du pétrole et plus on a un risque de dérapage. Donc on voit que la tension est quand même très vive aujourd'hui à attendre sur les cours du pétrole.
Étienne, on va avoir une fin de semaine chargée. On aura jeudi la BCE et les résultats d'Oracle, si j'ai bien suivi.
Non, c'est demain soir.
Oracle. Ah non, c'est demain. Alors
oui.
Demain Oracle, jeudi BCE,
Adobe.
Vendredi SpaceX.
SpaceX, avec un groupe qui souhaite lever pour rappel 75 milliards de dollars. Et puis hier, son petit concurrent OpenAI, hein, la maison mère de ChatGPT, qui a déposé son dossier auprès de la SEC. C'est une façon de dire en plein roadshow hein, de SpaceX, on est là, gardez un petit peu de cash parce que nous aussi, on compte rentrer en bourse, même si on est dans un calendrier qui va être bien plus long, dans le sens où dans son communiqué hier, OpenAI a dit que cette introduction en bourse prendrait du temps, parce qu'en fait aujourd'hui, ils sont pas prêts, et ils disent très clairement dans le communiqué eh bien, que certaines choses seront sans doute plus faciles à faire tant que nous sommes une société non cotée. C'est une façon de dire en fait que pour l'instant, la rentabilité est pas là, et on le voit bien en ce moment, la rentabilité c'est le nerf de la guerre, c'est d'ailleurs ce qui est reproché depuis longtemps à SpaceX, hein, le fait de ne pas dégager de cash, à l'inverse de Anthropique, la maison mère de Claude.
Et Pierre Blanchet, ça va se payer 92 fois les ventes SpaceX. Qui y va? Tout le monde en veut.
Ah ben, je pense que là, en tout cas, aux dernières indications, l'introduction en bourse est bien souscrite. Elle a l'air même très largement
souscrite. Ça va.
Donc, je pense que la réponse à votre question est assez nette. C'est certainement pas le multiple, qu'il soit de vente ou de profit, qui arrête les investisseurs. En fait, on est sur un champ qui est à la fois de la croyance.
Est-ce qu'on va aller sur Mars? C'est
voilà,
ça qui vend.
Et puis on croit aussi que au capitaine, très largement, il y a tout ça. Et c'est pour ça que la part du retail est aussi importante. Et puis il y a une réalité par ailleurs, c'est que ça sera une grosse capitalisation. On ne sait pas exactement dans 5 ans quelle sera sa taille, mais on se doute a priori qu'elle sera importante. Et donc, il y a un effet assez mécanique d'entraînement. Et puis voilà, comme c'est quand même le secteur à la fois l'IA et l'espace, là, c'est la combinaison des deux. SpaceX, c'est là toute la puissance rhétorique quand même aussi qui est en œuvre. Et ben du coup, là, vous avez un confluent d'intérêts qui est fort. Et puis après, il y a les effets d'entraînement qu'on va avoir sur toutes les stratégies passives. Et
ah oui, avec les ETF, parce que ça va rentrer dans les indices.
Voilà, ça rentrera alors de façon accélérée pour le Nasdaq.
Ouais. Qui a changé ses règles.
A modifié ses règles de façon assez substantielle. Pas le S&P, hein, intéressant de noter que le S&P a considéré que voilà, ces règles étaient intangibles. Et pas que des règles de flottant, il y a aussi les règles de la profitabilité des entreprises. On voit bien que là, il y a quand même deux notions entre l'accès finalement à l'innovation côté peut-être Nasdaq et la capacité d'épargner dans un cadre un peu cadré, on va dire. Voilà, c'est un peu les deux sujets, mais ça va jouer fortement.
Comment vous regardez ça, Christian? Vous dites c'est une arnaque pour particuliers. Non, parce que quand vous avez un compte Revolut aujourd'hui ou Trade Republic, on veut vous en vendre partout. Je ne sais pas s'il faut y aller ou pas, mais oui. C'est-à-dire que c'est faut pas rater, quoi. Il y a un côté, on a peur du vide.
Achat spéculatif, tout bêtement. Moi, je vous dis que vu le niveau de valorisation, aujourd'hui, il y a pas beaucoup de potentiel parce que franchement dans le business qu'a aujourd'hui SpaceX, hein, les lanceurs, on sait que ça rapportera jamais beaucoup d'argent, c'est stratégique mais ça rapportera jamais beaucoup d'argent. L'IA, il est plutôt en retard, donc si j'avais à jouer l'IA, je jouerais plutôt Anthropix voire OpenAI éventuellement quand ils s'introduiront en bourse, donc c'est pas forcément ce qui fait rêver, hein. Et donc finalement la seule chose qui marche bien, c'est les télécoms, la partie télécom, mais aujourd'hui qui est quand même déjà assez mature, hein, qui est pas non plus l'innovation avec l'entrée de nouveaux concurrents qui pourront arriver dans les prochaines années. Donc oui, c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est une mauvaise société, mais à ce niveau de valorisation, on se dit que d'ici un an, qu'est-ce qui ferait qu'on peut vraiment doubler la capitalisation? Il n'y a pas véritablement beaucoup de catalyseurs tant que ça. Donc oui, il se valorise très bien, bon, bah, tant mieux pour lui. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'impact que ça va avoir sur la liquidité des marchés, parce qu'on voit qu'on était sur des marchés qui étaient en manque de thématiques. Parce qu'en gros, on joue l'IA, on joue la thématique de l'IA, mais de plus en plus sur quelques acteurs. Hein. Mm. En gros, si vous n'aviez pas du Micron, du SK Hynix et du Samsung Electronics, bah, vous ne jouiez pas vraiment la thématique de l'IA parce qu'on a concentré sur les acteurs les plus sûrs, parce que le marché sait qu'il y a quand même beaucoup de risques derrière ces investissements. Et donc, les hyperscalers, on voit maintenant, hein, ceux qui investissent massivement, on prend en compte leurs investissements, mais on ne les joue pas en bourse. Et donc là, on offre de nouvelles possibilités de diversification. Tout le monde s'engouffre là-dedans, mais c'est aussi parce qu'on manque de thématiques. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez investir en bourse? Vous avez l'économie mondiale qui n'est pas en pleine forme, vous avez les incertitudes géopolitiques, vous avez les cours du pétrole qui quand même, qui sont appelés à rester élevés. Donc tout ça fait qu'on a un environnement global où on n'a pas beaucoup de choix d'investissement. Donc on s'engouffre sur ces thématiques-là, on joue ces IPO, mais finalement, derrière, on voit qu'on surpaye tout ça et à un moment donné, il y aura un retour de bâton, forcément. Bon, à très court terme, en spéculatif, oui, on va sur ces valeurs-là parce que je dirais, il n'y a pas d'autre alternative. L'effet Tina l'emporte. Et donc, on va sur ces nouvelles thématiques. Mais attention, il y aura un moment donné, il y aura forcément un retour de bâton.
Etienne, avec des méga capitalisations, on voit ça sur les indices coréens. Dès que ça bouge, sur Samsung ou SK Hynix, il faut mettre les courts-circuits, quoi. Tellement c'est gros.
C'était le cas, notamment, vendredi, interruption de cotation pendant 20 minutes à Séoul. Alors ça part très vite dans un sens, mais aussi très vite dans l'autre. Typiquement là, la clôture à Séoul, on est à plus 8% parce que SK Hynix a gagné plus 11%. Et typiquement sur la bourse de Séoul aujourd'hui, comme disait Christian, on est dépendant de deux valeurs, c'est SK Hynix et Samsung, dans le sens où historiquement, quand vous achetez un indice, vous pensez diversifier, mais en fait là, vous l'êtes plus du tout, dans le sens où vous êtes dépendant de deux valeurs. Donc c'est un problème pour cette place de cotation. C'est un problème également pour les ETF. Hein. J'imagine également Pierre Blanchet, dans le sens où on le voit bien sur les MSCI Asia. Typiquement, la composante semi-conducteur a explosé.
Oui, tout à fait. En fait, ça ramène au sujet cœur des ETF, hein, qui ne font que répliquer avec plus ou moins d'efficacité des indices. Et le choix, en fait, c'est l'indice.
Mais l'indice, c'est la valeur maintenant. Donc
Alors, oui et non. C'est la valeur quand on est dans l'hyperconcentration. Mais c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'a dit S&P. Et deuxièmement, si vous regardez les grands indices, ceux qui sont finalement dans le cœur de portefeuille, qui traquent les MSCI World Equity, l'entreprise dont on parlait, elle aura un poids qui sera finalement assez marginal en fait au départ. Je pense que le sujet, en fait, c'est plutôt la gestion active qui peut en fait se saisir des opportunités, alors peut-être spéculatives, mais qui peut le faire à T0.
Ouais.
On peut participer à l'introduction en bourse, et Étienne l'a mentionné, il y en a d'autres derrière. Hein. Alors que évidemment, la gestion passive par structure, elle va suivre un indice, et c'est ce qu'on lui demande. Donc vous avez quand même, dans un monde où il y aurait un peu plus d'introduction en bourse, on va peut-être retrouver un peu de vertu à la gestion active. Voilà, mais en fait, elle ne s'oppose pas, c'est juste la décalage ouais. De deux semaines.
Hein. Bon, en Europe, on a eu deux intros, hein. Non, trois, deux depuis le début de l'année. On est assez tranquille de ce côté-là. On n'est pas sur les actualités des introductions en bourse en Europe. Il nous reste 1 minute 30, Étienne. Ouverture dans 7 minutes du côté des marchés européens. Qu'est-ce qu'on attend ?
Moins 0,3% à l'instant en préouverture pour le CAC 40. Beaucoup moins de volatilité à Paris en Europe hein, par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis ou en Asie, dans le sens où on a beaucoup moins de valeurs semi-conducteurs et surtout elles pèsent assez peu dans les indices, en dehors bien sûr de ASML. Le pétrole qui est donc à 92$. Donald Trump qui a dit qu'il était dans ses derniers efforts hein, afin de parvenir à un accord avec l'Iran, et donc le marché qui anticipe encore et toujours la fin de ce conflit, même si sur le marché obligataire c'est pas vraiment la même chanson, parce que on aura la BCE jeudi, et quand vous regardez le 10 ans français, on est toujours au-delà des 3,7%. 3,05 pour le Bund allemand.
Christian, je vous lance un défi, il reste 15 secondes. La BCE, augmentation des taux jeudi, on y va tout droit, c'est grave, c'est pas grave ?
Alors oui, et c'est plus de la communication ouais. Pour rassurer les marchés, pour dire que la BCE va tout faire pour réduire l'inflation. Et donc c'est vraiment un acte plus de communication, il faut y voir ça plus qu'un acte en réponse à l'économie.
Pierre Blanchet ?
Oui, je confirme, ils vont monter les taux. En fait, la question c'est, est-ce qu'ils annoncent un peu la suite ? Juillet ou septembre ? Il y a au moins 3 hausses de taux qui sont pricées, ouais. donc voilà, communication importante.
On suivra évidemment tout ça depuis Francfort, puisque Aude-Kersulec sera évidemment jeudi matin depuis Francfort. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin dans le Club de la Bourse. Dans un instant, l'ouverture sur BFM Business avec Étienne Brac. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale, 6h, 9h. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brac.
9h58, dans deux minutes, ça sera l'ouverture de la Bourse de Paris. Moins 0,3% en préouverture, après déjà une baisse de 0,2% hier. C'est assez poussif en Europe. Hein. Même hier soir, l'Eurostock 50 a clôturé sur un zéro pointé. C'est bien la preuve que les marchés sont dans l'attente. Dans l'attente de quoi ? De la BCE, bien sûr. Ça sera jeudi. De SpaceX également. L'introduction en Bourse, ça sera vendredi. On sera bien sûr en édition spéciale sur BFM Business. Et puis au milieu de tout ça, vous aurez également les résultats d'Oracle. Ça sera demain soir, après la clôture de Wall Street. Nous parlerons de ces résultats très attendu en fin d'émission, juste avant 9h30, avec Paul Marcel, qui sera avec nous depuis l'atelier des options. Olivier Lévy de Lévy Capital Partners sera également dans Good Morning Market pour nous parler un petit peu de l'allocation de son family office, sachant que vous l'avez encore vu ces dernières heures, que ce soit ce matin en Asie, mais encore hier aux États-Unis. On a encore toujours beaucoup de volatilité sur l'ensemble des valeurs liées à l'intelligence artificielle et surtout liées aux semi-conducteurs. Comment arbitrer son portefeuille dans ce contexte ? L'élément de réponse, ça sera à partir de 9h15 et puis juste avant. Joachim Herrmann sera avec nous depuis la Suisse, analyste chez Kepler Unigestion, afin de vous donner 3 valeurs pour diversifier votre portefeuille. Il sera notamment question d'Inditex qui, souvenez-vous, a publié ses résultats qui étaient largement au-delà des attentes la semaine dernière. C'est l'une des plus grandes capitalisations de la Bourse de Madrid. Le pétrole est à $93. Donald Trump l'a encore dit cette nuit. On est proche d'un accord et le marché du pétrole veut y croire. $89 pour le WTI, $93 pour le baril de Brent. Voilà le programme de Good Morning Market. Jusqu'à 9h30, mais juste avant, à 9h, c'est toute l'information économique du jour avec Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et à la une, c'est la tension qui est donc redescendue sur le marché du pétrole. Étienne vient de vous le dire, 92 le baril de Brent ce matin, alors qu'Israël et l'Iran ont suspendu leurs hostilités après une journée de frappe hier, la première depuis la trêve conclue il y a un mois. Les menaces persistent entre les deux camps, mais Donald Trump, lui, assure qu'un accord reste imminent. Écoutez le président américain cette nuit.
We're Nous sommes en train de fournir les derniers efforts pour conclure ce qui sera un très très bon accord. Un accord qui interdira l'utilisation d'armes nucléaires sous toutes ses formes et le détroit d'Ormuz sera rouvert sans délai. Il rouvrira dès la signature de l'accord, ce qui pourrait avoir lieu dans 2 ou 3 jours.
Grosse poussée aussi ce matin pour les exportations chinoises, plus 19,4% sur un an au mois de mai, même plus 35% vers les États-Unis, soit une hausse de 10 milliards de dollars des marchandises expédiées vers le pays. Dans l'autre sens, les importations globales vers la Chine ont aussi bondi, plus 27% sur la même période. En Allemagne également, des exportations bien orientées. Alors on est là-bas à plus 0,9% sur un mois en avril, selon les données officielles. Mais les analystes s'attendaient à un repli de 0,8%. En France, Technip Énergie, Airbus et Safran vont s'associer pour produire des carburants d'aviation durable. Les trois groupes ont annoncé leur intention de s'installer au port de Dunkerque avec l'objectif d'y fabriquer 160 000 tonnes de SAF par an. En s'appuyant sur la technologie Alcohol to Jet, la création de leur co-entreprise devrait être finalisée d'ici la fin de cette année. Et puis une acquisition à plus de 10 milliards d'euros ce matin, signée GSK dans la pharma, le britannique qui annonce le rachat de la biotech américaine Nuvalent. Elle est au stade clinique dans l'oncologie avec 3 thérapies jugées prometteuses contre le cancer du poumon.
Merci beaucoup Léo Dumas pour ce rappel de l'information économique du jour. 9h01, dans un instant on va se pencher sur la séance du jour. Juste avant, un petit mot du programme des experts. 9h30, 10h avec Raphaël Legendre. Moi j'imagine que vous allez parler de ce fameux rapport du corps autour des retraites.
Ouais, de l'INSEE, de démographie et de la bombe démographique. Surtout, Étienne, cette bombe est-elle en train de devenir le sujet économique numéro 1, une bombe à fragmentation économique qui va poser la question dans la campagne présidentielle de l'immigration. Quand la natalité baisse, on peut la compenser par une hausse de l'immigration. Est-ce que ce tabou politique va devenir une nécessité politique? Une question sur les retraites aussi, évidemment, quand vous avait 2 actifs pour financer un retraité, le système n'est plus viable. Et puis également la question des finances publiques et puis cette note d'économistes qui propose un choc fiscal d'une centaine de milliards d'euros pour rétablir les comptes publics. Est-ce que c'est tenable? Et puis enfin, on reviendra sur l'échec du SCAF annoncé par Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Peut-on encore construire des champions européens, des champions industriels européens? Ce sera le dernier débat des experts ce matin avec en plateau Anaïs Voigilis, chercheuse associée à l'IAU de Poitiers, Ronan Lemoal, fondateur d'Épopée Gestion, et Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. À tout de suite.
9h02 sur BFM Business. Le CAC 40 est donc en baisse, moins 0,3%, toujours sous les 8200 points. 8175 points pour l'indice parisien. Publicis, ST Microelectronics et ArcelorMittal sont les 3 plus fortes hausses à l'ouverture. À l'inverse, ça souffle un petit peu sur Dassault Systèmes, Renault ou encore Airbus qui cèdent, allez, entre 0,8 et 1,1%. Bref, on a des marchés qui sont encore et toujours dans l'attente. On est toujours, bien sûr, sur les mêmes niveaux techniques. On verra cela, bien sûr, dans l'émission en fin de partie avec les équipes de l'atelier des options. 93 dollars donc pour le Brent, 90 dollars pour le WTI, de référence qui cède un peu plus d'1%. L'once d'or est toujours sur ses plus bas annuels, sous les 4400 dollars, 4360 dollars, c'est une baisse de 0,1%. Et puis sur le marché obligataire, on a des taux longs et des taux courts qui tentent de se stabiliser. 10 ans français à 3,7%, 3,05 pour le Bund, quand le 2 ans français est toujours sur la barre des 2,8%. Avant donc, bien sûr, la réunion de la BCE, Christine Lagarde qui est attendue au tournant jeudi en début d'après-midi. Le marché anticipe, bien sûr, très clairement une hausse de taux de 25 points de base. Très courte pause, on se retrouve dans un instant avec les équipes de Kepler Uni Gestion. On va prendre un petit peu de recul sur tout ce qui se passe en ce qui concerne l'intelligence artificielle, la très forte volatilité autour des valeurs liées aux semi-conducteurs, avec 3 valeurs pour diversifier votre portefeuille. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
Deuxième partie de Good Morning Market, et donc le CAC 40 qui est inchangé, des futurs américains qui sont dans le vert avant bien sûr l'ouverture de Wall Street cet après-midi, plus 0,4% pour le contrat futur sur le S&P 500, plus 0,7% pour le Nasdaq 100 avant les résultats de Oracle, ça sera demain soir, et puis vous aurez également les résultats de Adobe jeudi soir, 2 publications bien sûr qui seront scrutées par les investisseurs, avec d'un côté Adobe qui est considéré par la bourse comme l'un des perdants de l'intelligence artificielle et qui souffre en bourse depuis le début de l'année, et puis à l'inverse, Oracle qui connaît un beau rebond, notamment depuis le mois de mars, avec un acteur bien sûr qui est au cœur du déploiement des puissances de calcul dans l'intelligence artificielle. Assez peu d'actualité d'entreprise ce matin, a souligné Trigano qui trébuche avec Odo BHF qui revoit à la baisse son objectif de cours. Le titre cède un peu plus de 7% dans le vide, un petit peu 142,50€. Preuve qu'on nous sommes dans un marché creux. Nous verrons tout cela à partir de 9h25 avec Paul Marcel. En attendant à 9h08, on va vous donner trois valeurs pour garnir vos portefeuilles. Et ce sont les équipes de Kepler Unigestion qui nous accompagnent en ce mardi. Joachim Herrmann, bonjour Joachim, merci de nous accompagner ce matin pour nous ouvrir un petit peu les portes de votre gestion active. Vous êtes analyste chez Kepler Unigestion. Avec vous, on va parler de valeurs liées à l'intelligence artificielle, mais pas que. Commençons peut-être par Inditex, la maison mère de Zara, qui a publié ses résultats il y a quelques jours de cela. Et visiblement, cette publication vous a rassuré.
Oui, bonjour Étienne, merci de me recevoir. Effectivement, Inditex, on va revenir sur la publication de la semaine dernière, qui est sur son premier trimestre, qui se terminait à fin avril, donc avec deux mois déjà dans la guerre en Iran, donc avec les répercussions qui sont déjà visibles. Et on peut dire que ça a été très très rassurant, avec des ventes en hausse de 8,8% en organique, une dynamique qui s'accélère encore plus d'ailleurs sur le mois de mai, avec un taux de croissance aux alentours de 11,5% dans les premières semaines du mois de mai. En parallèle, la marge brute a atteint un niveau record à 61%, quand bien même l'entreprise reconnaît avoir des problèmes de coûts, notamment sur le polyester, sur le coton, qui ont bien monté ces derniers mois, qui représentent 27% des matières premières du groupe. Donc au-delà de ces chiffres, voilà, je trouve que ça illustre vraiment le potentiel d'Inditex qui se bat sur plusieurs fronts en même temps et qui reste compétitif. On peut voir, par exemple, sur le premier terrain, c'est celui du premium ou du luxe, on va dire, mais plutôt le premium, et que ce dernier a fortement augmenté ses prix dans l'euphorie post-Covid, au point d'être aujourd'hui regardé avec méfiance, voire défiance, par ses clients. Alors qu'Inditex, lui, a également ajusté ses prix, parfois de 50%, sur des produits basiques, en restant parfaitement positionné avec une image accessible, mais néanmoins de qualité. On peut penser à la composition des tissus, il y a quand même du coton dans les produits Zara, donc il ne se moque pas du client. Le deuxième terrain où Inditex performe bien, c'est le milieu de gamme, là où il y a des concurrents comme H&M, c'est le concurrent type. Ici, l'écart se joue vraiment sur l'exécution. Inditex, ils ont une supply chain qui est intégrée, ils arrivent à mettre rapidement les produits en vente sur le marché, ils ont une gestion très fine des stocks, les magasins sont de grande taille et surtout bien placés pour le consommateur mais aussi pour leur propre chaîne logistique. Tout est optimisé pour transformer rapidement la demande en vente et les ventes en profit. Donc c'est ce qui se reflète dans les niveaux de marge qui sont structurellement supérieurs pour un acteur comme Zara et donc Inditex. Et troisième terrain, si je peux finir sur Zara et Inditex, c'est l'ultra fast fashion, c'est l'émergence de ces acteurs chinois, on pense à Shein par exemple, qui impose vraiment une logique différente. Ils ont une puissance digitale qui est très forte, une capacité à tester de très nombreux modèles en un temps très court, et en face, Inditex peut jouer à armes égales. Ils répliquent par une puissance industrielle, opérationnelle. Ils arrivent à mettre sur le marché de manière très rapide également beaucoup, beaucoup de produits et en faisant des marges bien plus élevées que Chine.
Un titre qui est stable depuis le début de l'année, 54,56€ pour Inditex, qui est l'une des plus grandes capitalisations de la Bourse de Madrid. Ça pèse quasiment 170 milliards d'euros en termes de capitalisation boursière. Autre titre ce matin qui vous intéresse, c'est Amphenol. Alors là, on quitte l'Europe pour aller du côté de Wall Street. Un titre qui est coté au NYSE, qui fabrique notamment des connecteurs. Alors on pourrait se dire, tiens, il profite de l'intelligence artificielle en bourse. Alors quand on regarde depuis le début de l'année, c'est pas vraiment le cas. Comme Inditex, là, on a un titre qui est stable.
Oui, alors c'est un acteur qui a bien profité, on va dire, en 2025. Si on regarde un peu plus loin dans le temps, le cours de bourse est beaucoup monté l'an dernier. Cette année, ça s'est stabilisé, ce qui offre d'ailleurs, en termes de relative value, donc une valorisation attractive par rapport à ses concurrents américains. On a vu ces dernières semaines tout ce qui est équipementier américain, NetApp, même Cisco, l'entreprise quand même assez ancienne Cisco, qui sont beaucoup montées en bourse. C'est un peu moins le cas pour Amphenol, qui se trade aujourd'hui à des niveaux plutôt intéressants, alors en termes de valeur relative par rapport à son historique. On parle quand même de 24 fois les bénéfices, donc c'est pas bon marché dans l'absolu. Mais par rapport à son historique récent, sur 3 ans, sur 10, sur 5 ans, le titre se traite à une légère décote de 5 à 10%. Ce n'est pas négligeable. Donc ça, c'est la bonne vue de la valorisation. Vous évoquiez juste avant qu'on prenne l'antenne ensemble les publications d'Oracle et d'Adobe. Effectivement, Amphenol bénéficie de ce boom de l'IA. Ils fabriquent effectivement les câbles qui sont cruciaux dans les data centers. Donc ça, le groupe a beaucoup changé ces dernières années. Aujourd'hui, il affiche des taux de croissance à deux chiffres et une progression de marge. Mais ce que j'aime bien, j'attire l'attention des auditeurs et des téléspectateurs, c'est aussi sur le deuxième axe, c'est que c'est une entreprise qui gère extrêmement bien la croissance externe. Historiquement, Amphenol est un acheteur régulier de sociétés de taille moyenne, de l'ordre de 1 à 2 milliards. On va dire pour eux, c'est des mid-cap. Mais l'été dernier, donc en 2025, ils nous ont un peu surpris. Ils ont racheté une entreprise qui pesait 10 milliards. Et là, le marché s'est un peu interrogé au début. Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant pour deux choses. Premièrement, c'est qu'ils ont racheté pour la deuxième fois une division à un groupe américain en difficulté qui s'appelle CommScope. Et donc, en fait, ce management, il a pu éprouver la solidité de la première acquisition. Ils ne se sont pas lancés à l'aveugle dans cette acquisition qui est la plus structurante de leur histoire. Et de surcroît, vu qu'ils ont acheté une division et une entreprise en difficulté, ils ont obtenu un bon prix. Ça, c'est le premier aspect qui me rassure. Et le deuxième, c'est que la croissance du groupe est très, très forte. L'endettement qui résulte de cette acquisition n'est pas si problématique que ça et devrait se résoudre à 12-18 mois. Donc dans une logique cyclique, industrie cyclique quand même, il faut le reconnaître, et de potentielles bulles, du moins sur certaines valorisations d'IA, c'est quand même rassurant de se dire que la dette ne sera plus un problème d'ici quelques trimestres.
143 $ pour ce titre Amphenol, qui est donc coté à Wall Street, 176 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et puis alors un dernier mot sur une valeur qui est là aussi cotée aux États-Unis. ADP, alors on parle souvent de ADP avec les fameux chiffres ADP de l'emploi. Eh bien oui, cette société est cotée en bourse. Hein. C'est vrai qu'elle suit très bien ce qui se passe sur le marché de l'emploi aux États-Unis, dans le sens où son métier, c'est d'éditer des fiches de paie. Donc c'est vrai que c'est un bon baromètre et c'est vrai qu'on parle tous les mois ou presque des chiffres ADP sur ce plateau, dans le sens où ils publient à chaque fois leurs chiffres avant les données officielles du ministère du Travail.
Oui, effectivement, c'est le leader mondial de la paie. Il s'occupe de générer les fiches de paie, de s'occuper aussi des questions réglementaires, des cotisations sociales, et également pour certains clients, il s'occupe physiquement de la paie, vraiment, et même des flux financiers. Et c'est intéressant, c'est que vous évoquiez la publication à venir d'Adobe, et là on parle d'une entreprise, je parle d'ADP, Automatic Data Processing, qui a été sanctionnée en bourse de manière très très sévère. Aujourd'hui le titre fait moins 30% sur un an, il est tombé même jusqu'à plus de moins 40%. Pourquoi? C'est une valeur que le marché a pensé que c'était une victime potentielle de l'IA. Pourquoi? Effectivement, vous évoquiez l'affichage de fiches de paye, ça peut paraître relativement simple pour une IA, mais aujourd'hui, ce que les entreprises payent quand elles contractent avec ADP, c'est qu'elles veulent s'assurer du côté réglementaire des choses, que ça soit bien fait pour pas qu'il y ait de plaintes qui puissent venir. Et ça, on pense que c'est un processus tellement crucial que les grosses entreprises, le cœur vraiment des clients d'ADP, ils ne vont pas encore passer sur des solutions IA beaucoup plus légères. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, et ce qui est très intéressant aussi, c'est ça date de leur dernière publication trimestrielle, c'est que le management a indiqué un chiffre qui peut paraître anodin, c'est ils ont parlé de moins 8%. C'est le nombre d'interactions entre ADP et ses clients PME. En fait, grâce à leurs outils IA qu'ils ont déployés en interne, ils ont pu servir leurs clients en faisant en sorte que leurs interlocuteurs les interpellent 8% de moins. Donc on voit qu'ADP partage en fait les gains de productivité entre lui et ses clients, et c'est pour cette raison aussi qu'on pense que le titre ne mérite pas d'être massacré autant en bourse.
Merci beaucoup Joachim Herrmann de nous avoir accompagnés ce matin pour faire ce focus sur ADP, mais également sur Amphenol et sur Inditex. Je rappelle que vous êtes analyste chez Kepler Unigestion. 9h16, on va continuer à parler d'allocation avec Olivier Lévy qui vient de nous rejoindre en plateau. En portefeuille, oui, on va parler un petit peu d'allocation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, sachant que c'est vrai que c'est compliqué de faire une émission sans parler d'intelligence artificielle, avec toujours beaucoup de volatilité liée notamment aux valeurs liées aux semi-conducteurs. On le voit notamment depuis vendredi, et la très forte volatilité, notamment sur l'indice de Philadelphie qui a perdu 10% vendredi et qui a repris un peu plus de 5% hier. Bonjour Olivier Lévy.
Bonjour Étienne.
Président de Lévy Capital Partners. Oui, alors on va essayer de parler des marchés sans parler que de l'intelligence artificielle, parce que dans un portefeuille, on ne peut pas que avoir des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Comment vous regardez un petit peu ce qui se passe sur les marchés? Encore ce matin, c'est poussif en Europe, et puis du côté de l'Asie, du côté des États-Unis, on a une énorme volatilité avec ces valeurs liées aux semi-conducteurs qui prennent une place énorme dans les indices, avec des capitalisations boursières qui sont juste stratosphériques. Encore SKNX ce matin, plus 10%, ça pèse 1 000 milliards. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire l'impasse et de ne pas en parler.
Oui, c'est compliqué de pas en avoir. Par contre, il faut raison garder, il faut pouvoir écréter en bonne gestion. Les marchés sont nerveux, resteront volatiles dans l'attente effectivement de ce que les banques centrales vont faire fin de semaine. Le Moyen-Orient est dans la séquence là aussi. Donc cela rajoute du stress. Alors que si on regarde sur le long terme, de l'inflation il y aura. Et il faut savoir s'en protéger. Donc nous, dans nos portefeuilles, on reste sur des positions très solides où on a des actions qui ont un véritable pricing power sur le long terme. On a des obligations qui nous protègent de l'inflation, comme les OATI, donc qui là aussi s'indexent sur l'inflation. On a des actifs réels qu'on joue et qu'on surjoue. On a beaucoup de matières premières aussi. Donc là aussi, on se laisse porter par la volatilité, mais sur le long terme, on a besoin de cette décorrélation apportée par les matières premières.
Quand vous parlez des matières premières, c'est du pétrole, c'est de l'or, c'est des minerais, c'est
oui,
très large les matières premières.
Oui, c'est ce qu'on dit souvent, les hard et les soft commodities, c'est-à-dire aussi bien les matières premières agricoles que des matières premières type pétrole ou de l'or, le nickel, pour se couvrir et pour jouer la tendance ou la raréfaction de ces matières sur le long terme. On m'a souvent dit qu'il y avait le peak oil, c'est-à-dire que on serait sur la fin du pétrole, mais en fait on le voit pas puisque les grandes économies continuent à utiliser l'énergie fossile massivement. Donc on continue pour certaines poches à jouer effectivement ces matières premières.
Dans un family office, on est là sur du temps long, on n'est pas là pour faire de la spec ni du trading. Néanmoins, on l'a vu depuis le début de l'année, il y a eu quand même beaucoup de revirements. En termes de conviction, comment ça a évolué? Est-ce que vous avez pris des billets nouveaux? Est-ce qu'il y a certaines positions que vous avez arrêtées? Comment ça s'est déroulé là? On arrive bientôt à la fin du premier semestre, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour l'instant.
Non, vous avez raison, mais on reste arc-bouté sur nos convictions où effectivement l'inflation n'est pas morte et ça joue sensiblement puisque chez Levy Capital Partners, on doit neutraliser l'inflation, la fiscalité et le train de vie de nos clients. Donc effectivement, l'inflation est un des moteurs de protection, de performance, que sais-je, pour effectivement jouer cette tendance-là. Il faut être sur des tendances longues et de facto, effectivement, c'est sur un portefeuille obligataire mitiger la sensibilité et la duration des portefeuilles à l'aune des nouveaux taux. Les taux, il y a encore quelques années, étaient très bas. Là, le 10 ans français a fait une pointe à 4%. Il y a encore 10 jours, on est revenu à 3,60, 3,70. Donc, et c'est peut-être pas fini, puisqu'on a eu un moment en Angleterre très très douloureux, le moment Liz Truss, où là aussi les marchés financiers n'ont pas aimé la politique gouvernementale anglaise en son temps. Quid de la politique française à l'aune des élections. Donc, on n'est pas à l'abri que les taux puissent, là aussi, continuer à progresser. Et puis, mécaniquement, il semblerait que les banques centrales hochent leurs taux bientôt.
Avec notamment la BCE, qui est attendue au tournant jeudi. Donc, plutôt sur la duration courte.
Courte, ou pourquoi pas, forcément, il y a des choses aussi très longues. On doit faire preuve d'audace aussi. Quand vous avez du bond 10, 30 ans qui sert des taux très sympathiques, voilà, on a des convictions sur l'Allemagne qui a une structure bilancielle exceptionnelle. C'est pas l'Italie, c'est pas la France.
En termes actions, ça ressemble à quoi aujourd'hui la poche action, que ce soit en termes sectoriels mais aussi géographiques?
Toujours concentré sur les US pour les moteurs de performance que vous l'avez mentionné en début, l'intelligence artificielle, la technologie, le cloud et autres, ils sont incontournables.
Malgré la hausse depuis le début.
Oui, parce que vous avez des faiseurs. Donc les grands faiseurs, les Alphabet, les Microsoft, seront encore là dans quelques années parce qu'elles prennent les bonnes décisions, quand bien même il y a beaucoup effectivement de spéculation autour des data centers et de l'IA. En Europe, on continue à être sur des sociétés comme par exemple Safran, qui va profiter des lois de programmation militaire. On l'oublie, mais et eux, ils ont là aussi un boulevard dans le civil et le militaire. Donc ça, c'est pour des grandes capitalisations. Sur des petites, il y a beaucoup de sociétés qui sont très délaissées ou des situations spéciales. Je pense à la santé comme Boiron, qui avait là aussi, il y avait une tentative de retrait de la cote il y a 2 ans et demi. Le cours ne vaut pas grand-chose. Donc c'est le moment de s'y réintéresser avec des coupons qui viennent là aussi nous conforter dans l'approche. Quand on a 5-6% de dividendes, ça nous permet d'être patient et de porter notre position.
Diversification, bien sûr. C'est pas un conseil, hein. Vous êtes là pour partager un petit peu vos convictions. Et puis, les foncières. C'est vrai que les foncières ont bien performé l'année dernière en bourse. Et puis là, bah, forcément, avec ce contexte inflationniste, pourquoi pas des banques centrales qui vont remonter leurs taux à plusieurs reprises. Est-ce que ça remet pas un petit peu en cause le modèle des foncières? En tout cas, la profitabilité.
Ça remet pas en cause le modèle, puisque sous Mitterrand, les taux n'étaient pas les mêmes, l'inflation n'était pas la même, et ça n'a pas empêché les foncières de bien se développer. La question, c'est de trouver celles qui sont sur, là aussi, les leviers de performance de demain. Donc, il y a effectivement des moteurs de croissance dans la logistique, la santé, les résidences étudiantes, que vous ne trouvez plus dans le résidentiel. Vous avez eu l'effet richesse. Il y en a qui sont peut-être mieux gérés que d'autres. Il y en a qui sont mieux géographiquement diversifiés que d'autres. Vous avez Mercialis qui est très franco-française, vous aviez Unibail qui est européenne et américaine pour 30%, vous avez des acteurs comme Klépierre qui sont en Italie et en Scandinavie, vous avez des acteurs comme Vonovia qui sont très concentrés sur l'Allemagne avec un encadrement des loyers. Donc vous avez là aussi du shopping à faire dans un gisement qui est très petit, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de foncières cotées en bourse, mais ce sont encore les grandes aristocrates. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous distribue un dividende entre 4, 5, 6 ou 7% selon les années, qui est souvent appréciable. Et ce sont des sociétés qui sont pas toutes endettées. Là aussi, il y a des sociétés qui avaient fait la restructuration qui s'imposait il y a quelques années. Il y en a d'autres qui sont très endettées, hein, comme Aroundtown en Allemagne, comme Vonovia en Allemagne, et d'autres qui le sont beaucoup moins, qui avaient profité là aussi pour vendre des actifs et se désendetter, je pense à Mercialis ou Carmila.
Mais quand vous voyez la remontée des taux longs, hein, c'est vrai que tout à l'heure vous parliez du 10 ans français, le Bund allemand à 3%, etc. Pour vous, non, il faut garder la tête froide et ne pas vendre ses foncières. Ça remet pas en cause la thèse d'investissement.
Comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir être sélectif dans ce gisement-là. Évidemment, il y a un effet mécanique. Quand les taux montent, les gens se désengagent de cette classe d'actifs. Quand je dis les gens, c'est les ETF. Quand je dis les gens, il y a des institutionnels et des investisseurs audacieux qui, eux, y rentrent.
Merci beaucoup, Olivier Lévy, de nous avoir partagé les convictions de votre family office. Je rappelle que vous êtes président de Lévy Capital Partners. Le CAC 40 est sur une très légère hausse, plus 0,2% à l'instant. On est à un cheveu des 8200 points. On va faire un focus sur la séance en cours avec Paul Marcel. Paul Marcel, cofondateur de l'Atelier des Options. Bonjour Paul, merci de nous accompagner ce matin. Bon, on l'a vu tout à l'heure, le CAC 40 a ouvert sur une très légère baisse. On est désormais sur une très légère hausse. Bon, ça reste assez poussif en Europe, hein, un petit peu comme hier.
Oui, bonjour Étienne. Bah, écoutez, les indices US se sont fait une grosse frayeur vendredi, hein, puisque le SP500 a perdu 2,5% et le Nasdaq pratiquement 5%. Alors pour une fois, on est très content de ne pas avoir de valeur technologique dans l'indice parisien, car finalement, le CAC 40 n'a perdu que 0,5% entre la clôture de jeudi et celle d'hier soir. Donc maintenant, d'un point de vue graphique, la résistance de 8259 points a encore été très efficace la semaine dernière, hein, puisque le CAC 40 a systématiquement buté dessus. À noter qu'on peut tracer une oblique baissière qui passe par les points hauts du 26 février et du 7 mai. Or, si le CAC 40 venait à casser cette oblique, d'ailleurs on est juste dessus là aujourd'hui, il pourrait également par la même occasion casser la résistance des 8259 points et ce serait un signal de force pour aller rallier les prochaines cibles à 8357 et 8454 points à la hausse. Par contre, si le CAC 40 échoue et a cassé ses résistances, alors un retour à 8089, voire 7919 est tout à fait envisageable.
Du côté des valeurs, il faut rassurer avec beaucoup d'attention Adobe qui va publier ses résultats, ça sera jeudi. Et puis demain soir, on aura également Oracle.
Oui, Oracle, bah, très attendu, hein, valeur importante aussi de la côte américaine. Donc mercredi soir après la fermeture. Alors sur le marché des options, les market makers price un mouvement de plus ou moins 12,5% d'ici ce vendredi. Le put call ratio est de 0,48. Alors c'est assez optimiste. Les opérateurs sont principalement positionnés sur des calls. Côté statistique, à noter qu'Oracle, si on avait acheté Oracle hier en clôture et conservé jusqu'au 24 juillet, cela aurait permis de gagner 15 fois sur les 19 dernières années, soit 79% de réussite. Et en prenant une stratégie sur option qu'on appelle un bull put spread et en plaçant les bornes à 5% en dehors de la monnaie, on aurait même obtenu 18 trades gagnants sur les 19 dernières années, soit un taux de réussite de 95%. Alors bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Maintenant, d'un point de vue graphique, on est venu buter hier sur une résistance à 217,80$. Alors il faudra casser cette résistance par la hausse pour pouvoir atteindre les prochaines cibles haussières à 242,40$ et 283$. Si la baisse domine après les résultats, alors le support de 182$ sera la prochaine cible à la baisse.
Voilà les niveaux à retenir pour Oracle qui va donc publier ses résultats demain soir. Merci beaucoup Paul Marcel de nous avoir accompagnés ce matin, cofondateur de l'atelier des options, pour faire un point donc sur le CAC 40 qui est quasi étal à 8206 points et sur donc Oracle qui va publier ses résultats. Le titre n'a toujours pas retrouvé ses plus hauts de septembre dernier. Néanmoins, ça sera un très bon baromètre de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle et surtout des capacités de déploiement, avec pour rappel quand même des GAFAM qui ont prévu d'investir près de 700 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2026. Dans un instant, vous retrouvez les experts, 9h30, 10h30, et puis la séance, ça sera bien sûr à suivre dans Tout pour investir, Antoine Larry-Gaudry, et avec Guillaume Sommerer dans BFM Bourse à partir de 15h30. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.